Chapitre 2. Le dîner, servi dans l'appartement de Josua, mérite à peine une mention. Les Américains de n'importe quel sexe mangent vite et mal avec un but de conserve et de poivre rouge. Sitôt le repas terminé, Mistress Flyburn, toujours chronométriquement ponctuelle, mit sur la table un samovar fumant, une théière, des tasses et un assez ample flacon de gin discrètement recouvert de paille tressée. Cette fonction accomplie, Mrs. Freeburn disparut, et Josua précipita l'eau bouillante du samovar dans la théière d'où la vapeur ressortit chargée de parfum. C'est là, pour les Américaines comme pour les Anglaises, le signal des causeries intimes, et les traits de Josua s'épanouirent. « Un peu de thé, ma chère, » dit-elle. « Êtes-vous reposée? Êtes-vous bien chez vous ?»« La journée entière m'a paru délicieuse, » répondit Miss Helen. « C'est-à-dire que, rencontrant la fortune aujourd'hui, vous espérez loin de moi la liberté demain ?»« Non, je ne songe pas à fuir. Votre menace de procès m'effraie trop. » « Mais je plaisantais, je suis bien aise que vous vous en soyez aperçu. »« Mais je ne plaisante pas, moi, je vous jure. Il me semble au contraire que j'aimerais, moi aussi, à faire valoir mes droits. »« L'existence près de vous doit être très agréable. Vous êtes un docteur, capable de m'apprendre un tas de choses que j'ignore. Vous me promettez de plus votre amitié. Et que pourrait m'offrir de mieux le plus joli des maris ?» Hélène Kampf avait prononcé très gaiement ce petit discours. Ses gestes étaient animés, ses éclats de voix sonores comme des rires. On pouvait croire que l'île et le porteur, abondamment absorbés pendant le repas, étaient pour quelque chose dans cette effervescence et que le voluptueux arôme du thé vert répandu dans la chambre y était pour beaucoup. Josua, comme pour entretenir ses bonnes dispositions, inclina légèrement sur les tasses l'amphore tressée d'osier. Le bruit étranglé du goulot annonçait une bouteille bien pleine. « Mais voilà que vous raillez à votre tour, » dit la doctoresse. « La vie calme et studieuse auprès de moi ressemblerait trop à celle que vous avez menée jusqu'à présent au sein de la famille. »« Au sein de la famille ?» Miss Helen hésita, tandis que ses yeux de Mistress Brogneel interrogeaient un peu moqueur. « Bon, oserais-je vous avouer, » continua Miss Helen, « que je ne suis pas arrivée ici de Baltimore aussi directement que je l'ai prétendu ce matin. Je me suis arrêtée par-ci par-là. J'ai été ouvrière commerçante, chanteuse, actrice, journaliste, conférencière, tout ce que peut être une femme qui cherche sa voix. Et voilà bien des situations qui, au fond, aboutissaient toutes à avoir été trompées dans chacune par un homme, au moins. Vous l'avez dit. » Il y eut, après ce gros aveu, un moment de silence employé par la doctoresse à remettre du gin dans les tasses où le thé commençait à manquer. « Eh bien, cette confidence me fait le plus vif plaisir, » reprit-elle. J'espère maintenant qu'en effet mon plan d'association vous paraîtra digne d'être expérimenté. » L'émotion involontaire de la doctoresse en lançant cette proposition indirecte prouvait bien qu'elle en revenait à son projet le plus cher, à son idée fixe. « Eh bien, va pour l'expérience, » répondit Miss Helen, très pénétrée aussi et un peu grise. « L'expérience seule fait la loi. » « Mais prenez garde, » dit Josua, ravi, « c'est tout un système dont il vous faut d'abord entendre l'exposé. »« Mais je suis toute oreille et toute attention, » dit Miss Helen. « Je parlerai donc, » dit la doctoresse, qui se recueillit un instant et versa une nouvelle dose de gin dans les tasses où il ne restait plus ombre de thé. Appuyant ensuite un de ses bras à la table et l'autre au dossier de sa chaise, le torse de biais et la tête de face, elle entama, soudainement éloquente, une conférence en règle sur le genre de vie qui conviendrait à la femme moderne, instruite, intelligente, émancipée et sérieuse. La thèse se résumait dans le devoir pour les femmes d'organiser entre elles une société séparée. Après, par leur talent et leur activité, à pourvoir aux besoins de la vie. Elles ne communiqueraient avec les hommes que pour l'échange des produits naturels ou artificiels et le règlement d'un petit nombre d'intérêts collectifs. Cette théorie était simple, limpide, du plus orthodoxe radicalisme. La démonstration que nous avons soin d'abréger prenait pour point de départ l'éternelle hostilité qui semble, de par la nature, diviser les deux sexes. Hostilité fomentée de part et d'autre par l'égoïsme et dont l'orateur fléchissait comme principale manifestation ces cruelles ruses de guerre, cette suite de dissimulations et de mensonges qu'on a décorés du nom d'amour. Les critiques et les épigrammes retentissaient drues comme grêle contre tous les genres d'unions, définitives ou passagères, contractées sous prétexte d'amour dans notre société de convention. Et la voix de Mrs. Broghill acquérait plus d'ampleur et de vol, sa figure s'éclairait d'une plus triomphante mimique démonstrative à mesure que ses paradoxes atteignaient à un plus haut degré d'énormité. Mais la leçon s'envenima des fureurs d'une vraie philippique lorsqu'il fut question de la rivalité des deux moitiés humaines sur le terrain intellectuel et surtout lorsqu'il fut traité des injustices de l'homme, refusant d'admettre qu'il y a différence et non inégalité et que la force morale dont l'homme se targue demeure stérile sans les correctifs de prudence et de tendresse qui apporte la femme. En politique, le dernier mot de l'homme tout seul, c'est la guerre. En socialisme, c'est la peur ou la haine, la réaction ou la destruction. Et il ose faire le superbe. Ah, certes, elles étaient foudroyantes, les paroles de Josué sur ce chapitre. On croyait entendre le sifflement du fer rouge dont elles marquaient les abus. Et on dit que cette dispute durera toujours, s'écria-t-elle. Eh bien, soit, mais dès lors, pas de compromis, guerre ouverte et à jamais. Oui, guerre et séparation, cria aussi Miss Hélène en brandissant la tasse qu'elle venait de vider. Mais resterons-nous isolés, cependant, continua Mrs. Broghill, entraînée par l'enthousiasme de l'auditoire. L'ennui nous ramènera-t-il, repentante et soumise, entre les bras de nos ennemis? Oh non, mille fois non! Écoutez plutôt mon programme. Miss Hélène se fit attentive autant que le lui permettaient les chaudes effluves du gin flottant dans son cerveau. « La nature, dit Josué, plus calme et tâchant d'être clair, la nature s'est montrée fort avare de procéder en créant notre engeance. Elle n'a par exemple imaginé que deux sexes, car rien ne l'empêchait d'en constituer une vingtaine, afin de complaire à tous les goûts et de pourvoir à toutes les aspirations. » Ben, j'ai constaté, néanmoins, et par l'étude de certaines doctrines de physiologie et par mes propres expériences, qu'il y a deux sortes de femmes. Les unes sont légères, gracieuses, fantasques, nées pour réjouir l'esprit par leurs caprices, pour charmer les yeux par le rayonnement de leur beauté, par leur coquetterie, par la subtile et féline mignardise de leurs gestes et de leurs attitudes. Il va sans dire, ma chère, que je vous range dans cette aimable catégorie. Eh bien, moi, je suis de l'autre section, infiniment moins séduisante, que ses instincts poussent vers l'étude et qui ne saurait se borner aux quelques travaux d'aiguille, à ce peu de musique, de peinture ou de rhétorique épistolaire dont vous vous contentez, vous autres belles esclaves, quand vous êtes en quête d'un maître. Il y eut ici une longue apologie de la sorte d'être que l'homme appela de tout temps le bas bleu ou la pédante, et que la doctoresse honorait du titre de prêtresse du progrès universel. Ce passage, fort applaudi par Miss Hélène, fut suivi d'un instant de répit, pendant lequel Josué tira enfin une seconde édition de thé des flancs bouillants du samovar. Mais la conférence n'était pas terminée. Les observations de Mrs. Joshua lui permettaient d'affirmer qu'en raison d'une sorte de virilité de son intelligence, l'espèce savante femelle déborde de tendresse pour la gente congénère seulement dotée des perfections natives. « Nous vous aimons, chère vierge folle, déclarait-elle l'exaltée, médecin pour vos maux, avocat pour vos droits, écrivain, polémiste, romancière. C'est à votre seul profit que nous réclamions des réformes. C'est en raison de vos misères que nous accablons l'homme, époux séducteur de nos éternelles malédictions. Maintenant, grâce au ciel, la conclusion était tout indiquée. Ce que je propose, formula Mrs. Brogill, c'est l'utilisation de ce phénomène naturel, c'est la mise en pratique de cette sympathie. L'une aime à donner de bonheur que l'autre le reçoive. Vivons ensemble dans cette maison où je serai le travail, où vous serez la souveraineté. Donnons l'exemple d'une association d'où l'homme sera irrévocablement banni. Mais tout cela est délicieusement imaginé, s'écria Miss Hélène, dont l'enthousiasme et la gaieté étaient au comble, et qui, à son tour, inonda de gin les tasses odorantes. La bouteille commençait à sonner le vide. « Alors vous consentez ?» demanda Joshua quand le grog fut absorbé. « Oui, mais ce serait folie de refuser. Votre affection égalera la mienne. Mais je vous trouve irrésistiblement éloquente et convaincante. Vous jurez alliance loyale et fidèle. Je le jure. Eh bien, je t'aime. Tu m'as comprise. Tu es celle que je rêvais, proclama Mrs. Boggill, s'élançant de l'autre côté de la table et embrassant son ami qui s'abandonnait joyeusement à cette effusion. Et oui, je t'aimerai comme une sœur, comme une enfant, et tu verras bientôt de quelle volonté je suis capable pour le triomphe de nos principes. Nous tutoyons ici, afin de traduire scrupuleusement le sens intime des paroles de Joshua, car elles s'exprimaient dans cette placide langue anglaise où l'on dit toujours « vous », même en Amérique, et même quand l'imagination titube à travers les éblouissements de l'alcool. Et maintenant, ma chère, dit Joshua, redevenu grave, je dois vous quitter, il est l'heure de mon indispensable promenade du soir. Et daignez dormir le mieux possible, nous recoserons demain, je vous expliquerai bien les choses encore. Ce disant, Joshua s'enveloppa d'un waterproof de bure sombre et couvrit ses cheveux blonds d'un feutre noir à large bord, ce qui acheva de donner à son accoutrement un cachet presbytéral. On devine que Mrs. Flyburn, exacte comme une éclipse et non plus bruyante que la lune, surgit dans la minute même des adieux pour reconduire Miss Hélène à son appartement. Lorsqu'on se retrouva dans la chambre du second étage, Miss Hélène, un peu dégrisée, fut curieuse d'apprendre Mrs. Flyburn quel était le but des excursions obligées de Joshua. « Oh, Mrs. Josia, fut-il répondu, se rend chaque soir à l'établissement du gaz, en vue de son prochain ouvrage, l'influence de l'hydrogène carboné sur le fonctionnement et sur les malaises des organes respiratoires. Ce travail ne s'interrompt que quand Mrs. Josia doit assister à la séance mensuelle des dames francs-maçons. » Ayant ainsi parlé correctement, la serviable Mrs. Fairburn se dissipa. Miss Hélène, bientôt après, s'endormait sans trop savoir si l'extraordinaire Joshua et son invraisemblable camériste n'étaient pas les fantômes d'un rêve commencé depuis quelques heures déjà. Mais le lendemain, dès le réveil, elle aperçut dans la chambre, éclatante de pur soleil, Mrs. Flyburn, charnel et tangible, apportant sur un incontestable plateau un très réel déjeuner. La bonne dame expliqua que Mistress Joshua n'abandonnait ses diverses occupations et ne se livrait à la vie de famille qu'à partir de l'heure du dîner. Miss Hélène était donc libre jusque-là. Clause excellente. Quelques instants après, Miss Hélène approvisionnait le dollar, se lançait dans la rue, aspirait l'air matinal et trottinait épanouie et légère, songeant qu'elle était riche et libre. Les rues de San Francisco sont toujours droites, comme le plus court chemin d'une affaire à une autre. Mais qu'importait cette monotonie à une femme enviée, enivrée de plaisir de se posséder elle-même? Elle erra longtemps, vit tout, ne regarda rien, fit de nombreux achats dans les magasins de nouveautés, et reprit enfin fatiguée le chemin de la maison en pensant à Joshua. La doctoresse, à coup sûr, lui semblait fantasque à l'extrême, mais on était contraint de reconnaître en elle l'ascendant de ceux qui possèdent à la fois l'enthousiasme et la logique de leurs chimères. Ces utopies avaient peut-être du bon et méritaient au moins l'épreuve d'une quinzaine de jours. « Ah, j'étais presque sûr de vous retrouver là, » dit Miss Hélène, sortant de ses réflexions à Mrs. Flyburn, qui lui épargnait encore une fois la peine de sonner à la porte de Joshua. « Excusez-moi, » répondit Mrs. Flyburn, « les commis chargés de vos emplettes m'ont indiqué votre itinéraire. Vous voyez, de simples conjectures. » Miss Hélène eut l'obligeant de ne pas insister et se rendit dans sa chambre où ses diverses acquisitions étaient déjà rangées avec méthode. C'étaient les éléments complets d'une nouvelle toilette et autant de talismans contre l'ennui. Heureuse de se voir jolie et d'être sûre de plaire, ne fût-ce qu'à Joshua, Miss Hélène était encore attachée au miroir quand Mrs. Flyburn va l'avertir pour le dîner. Tout se passa comme la veille, mais avec plus d'abandon. La situation paraissait désormais acceptée. On parlait à bâton rompu. Il n'y avait plus de tâtonnement ni de profession de foi. Les cœurs des deux amis allaient au-devant d'une pénétration mutuelle. L'apparition de Mrs. Flyburn n'avait pas manqué de se produire à point nommé pour le dessert. « Ah, ça, me direz-vous, » demanda Miss Hélène lorsque la porte se referma. « Mais quel mécanisme fait mouvoir Mrs. Flyburn avec tant de précision ?»« Eh bien, puisque ce phénomène ne vous a pas échappé, » dit Joshua, « je dois vous avouer, toute modestie à part, qu'il est le résultat d'une de mes expériences qui me vaudrait la gloire si je pouvais vaincre la jalousie de la corporation. » Mrs. Flyburn, riche jadis, mais un jour subitement ruinée, souffrait, quand je la pris pour servante, d'un mysticisme suraigu. Elle attribuait à l'inspiration du péché originel ses moindres pensées, ses plus minimes actions, et vivait dans une continuelle terreur, non seulement des enfers, mais de quelques malheurs immédiats infligés par une providence vengeresse. Alors j'entrepris l'application extérieure de stupéfiants sur le cerveau, de manière à neutraliser les divers lobes où réside la faculté de s'occuper de soi-même, et je ne laissais subsister que les lobes où se forment les notions relatives à autrui. Et la guérison, vous le voyez, dépasse toute espérance. Désormais, la vie morale ne sera plus chez Mrs. Flyburn qu'un phénomène purement extrinsèque. Ses habitudes d'observation se concentrent en un superlatif de clairvoyance sur les actes et les volontés des autres. Alors c'est donc une personne parfaitement heureuse et une excellente domestique. Elle m'a confié que vous êtes d'une franc-maçonnerie de dames. C'est, je suppose, un milieu favorable à vos idées. « Oh, plus ou moins, peu m'importe. Les loges et clubs sont le rendez-vous des bavards à propagande. plus soucieux de réformer l'univers que de prêcher d'exemple, et le contraire est ma ligne de conduite. Quant aux réunions féminines, on s'y préoccupe par trop de pas se dépasser en stoïcisme et en pédanterie les hommes qu'on prétend égaler. Donc on tente de revendiquer le mandat politique, judiciaire, administratif, municipal ou que sais-je encore. Ces dames traitent de haut tout ce qui est du domaine des grâces. Elles ont en froid mépris l'art de plaire et les divers talents qu'on ne peut exercer sans être belle. Oui, Dieu me pardonne, elles accablent de dédain et de commisération les actrices incarnant les conceptions idéales des poètes, les chanteuses, les ballerines et les autres déclassées de ce genre. Nous jugeons utile de relater qu'à ce moment, l'influence extatique du djinn recommençait à se faire sentir. La doctoresse était assise, comme la veille, de l'autre côté de la table, près de Miss Hélène, souriante, reposée, jolie et printanière jusqu'à l'exubérance. « Je ne tombe pas, moi, dans de telles exagérations, » continua Joshua. « Que les hommes accaparent les fonctions sérieuses ou pénibles, rien de plus juste. Mais réservons aux femmes et à elles seules les métiers de pur agrément, tels que la peinture, la sculpture, la musique, la poésie, le sacerdoce, la prédication, dont ces messieurs tout justement affectent de détenir le monopole exclusif. Cette concession, quelque sage, quelque légitime qu'elle semble, nous est aussi refusée. Eh bien, qu'on nous permette du moins d'être belles autant que possible et d'enchaîner par là les amitiés et les sympathies. N'aimeriez-vous donc moins si j'étais laide? Oh, ce ne serait plus l'amitié spontanée, mais un attachement réfléchi que l'habitude et la conformité d'opinion auraient à développer. Mais, j'y songe, que deviennent les hommes dans notre aimable République? Soyez sans inquiétude à cet égard. La condition humaine ne permet qu'un nombre restreint de combinaisons. Je ne connais pas de plus pauvre argument contre les projets de réforme que la crainte de grands changements sociaux. Dans le cas dont nous parlions, les hommes continueraient tout uniment de vivre entre eux, au club, au café, à la bourse, aux réunions électorales et dans les autres milieux d'où ils sont éternellement jugés convenables de nous exclure. Non, vous n'avez pas, je le vois, une haute idée de la sancticisme institution matrimoniale. Peut-être. Après un siècle encore d'études de progrès, le mariage se justifiera-t-il par l'union réelle des intelligences, par un retour sincère à la dualité de l'être humain? Alors l'homme ne fera rien admis, c'est-à-dire rien à lui tout seul. Livres, poèmes, tableaux, symphonies, inventions, découvertes, législations, tout sera conçu, élaboré, exécuté, achevé par ces deux âmes devenues la même pensée. Toute œuvre sera complète, sinon excellente. Nous n'assisterons pas, vivantes, à ce triomphe du bon sens. Il faut nous borner à le prédire. Miss Hélène s'apprêtait à faire sur les résultats de la dualité et sur les diverses phases de l'union des intelligences plusieurs questions probablement intéressantes, mais l'heure de l'indispensable promenade à l'établissement du gaz et de l'inévitable apparition de Mrs. Flyburn avait sonné. 10 jours se passèrent ainsi sans le moindre nuage. L'éducation de Miss Hélène dans la science sociale avançait rapidement. La docile élève raffolait du professeur et de ses leçons. On ne pouvait imaginer au reste une existence mieux réglée, des conversations plus instructives, une intimité plus délicate et une liberté plus parfaite. Jamais Mrs. Josanne n'avait trahi la moindre curiosité touchant les longues promenades que Miss Hélène s'accordait tous les jours et même certains soirs pendant le cours des observations sur l'action morbide ou curative de l'hydrogène. En surplus de ce bonheur, On avait d'agréables divertissements en perspective, notamment la prochaine initiation à la franc-maçonnerie. Mais un soir, celui du second samedi, le programme s'enrichit d'un plaisir inattendu. Le samovar ne bouillait pas comme d'habitude. Mrs. Flyburn, sans avertissement préalable, avait pris d'autres dispositions. Un cordon de tasses bordait la table. Le milieu était occupé par une immense théière entourée de fioles à liqueur, de cruchons de bière, de boîtes de cigares, de pots à tabac et autres accessoires d'un raout américain au présent siècle. « Nous avons des réceptions mensuelles, » expliqua Mrs. Broghill. « Je vois dans votre air que vous avez oublié de vous avertir. Vos sœurs en franc-maçonnerie sont des gaillardes, paraît-il, insinua Miss Hélène en désignant du doigt les tabacs et les pipes. « Ah, détrompez-vous, » répondit Joshua, « nos soirées sont uniquement organisées en l'honneur du sexe fort. » Cette circonstance, si contraire au train habituel de la maison, méritait des éclaircissements. Joshua démontra que, pour se fortifier dans la résolution de renoncer aux hommes, il convenait de les voir de temps en temps de près. « Mais n'est-ce pas un danger, au contraire ?» demanda Miss Hélène. « Mais vous en jugerez tout à l'heure, écoutez seulement et regardez. » « Mais n'est-il donc pas certains hommes qui acceptent nos théories et deviennent ainsi nos alliés ?»« Horreur, ma chère !» s'écria la doctoresse avec l'accent de la plus vive répulsion. « Ceux-là ont les plus détestables. Trop faibles pour agir sur leurs pareils, ils tentent de jouer près de nous et, malgré nous, le rôle larmoyant d'apôtre. Sous prétexte de défendre nos intérêts, ils nous proposent je ne sais quel régime semi-platonique qui n'est qu'une lâche reculade devant la réalité. Laissons-là ces gens jôleurs et n'en parlons plus. » Ce cruel coup de boutoir amusa Miss Hélène, mais éveilla dans son esprit quelques respectueuses velléités de résistance. Bien, il faut pourtant, insista-t-elle, procréer dans ce monde, si l'on veut qu'il dure. Mais quoi de plus simple, répondit Mistress Broghill. Attendons que les désirs de maternité nous entraînent. C'est la seule excuse de ce qu'on appelle l'amour. Acceptons alors l'intérim d'un homme, réunissant hélas à peu près les qualités physiques et morales que nous aimerions à retrouver dans notre enfant. L'être qui naîtra par la suite sera relativement capable et digne à la fois de vivre longtemps. Et qui l'élèvera, le père ou la mère? Mais laissez-moi vous redire que les réformes les plus audacieuses, celles qui aspirent le plus aux niais, la terreur des cataclysmes, n'introduiraient que de minimes modifications dans les mœurs et coutumes. La mère garderait l'enfant jusqu'à l'âge de l'école. Le père le visiterait pendant ce temps, au gré de ses souhaits et de ses occupations. Le reste n'est plus qu'une affaire d'argent. N'est-ce pas à peu près ce qui se pratique aujourd'hui? Miss Hélène, convaincue, allait tomber d'accord de ces hautes vérités, mais la pendule sonna l'heure de la réception, et les invités, scrupuleux observateurs de la ponctualité anglo-saxonne, firent irruption tous à la fois. Nous ne saurions décider si Mrs. Broghill avait confié au hasard le soin de justifier ses innovations ou si elle avait adroitement choisi ses amis dans ce but. Force nous est seulement de convenir que le ridicule de l'entière collection sautait aux yeux. Toutes les figures étaient d'une laideur farouche, aggravée par la sinistre coupe de barbe à la Yankee. Toutes les formes offensaient les lois les plus indulgentes de l'esthétique. C'était comme un mystifiant rendez-vous d'avorton et de colosse, d'échines ratatinées et de ventres excessifs. Les voix et les rires étaient agaçants à tous les degrés de la gamme. Les pas et les gestes faisaient trembler la table et la vaisselle. Malgré la présence de 2 médecins, de 15 avocats, de 8 pédagogues, de 3 ingénieurs, de 4 clergémen et d'une demi-douzaine d'industriels, La conversation ne put se fixer sur une matière intéressante et passa presque immédiatement à la politique. Il y avait crise ministérielle. L'un tenait pour Janson, candidat avancé, l'autre pour Paulson, candidat rétrograde, et beaucoup pour Mackinson, candidat pondérateur. Paul s'occupait nullement des principes représentés par ces trois ambitieux, ni des bénéfices éventuels de leur présence au pouvoir, mais on s'échauffait à blanc sur le chapitre des personnalités. Toutes les opinions, d'ailleurs, retentissaient de concert en un crescendo formidable. La maîtresse de la maison trouvait à peine le placement d'un mot, et on eut donc une sorte d'attention particulière pour Miss Hillenkamp, que l'agréable assemblée pourtant voyait pour la première fois. Josua n'en paraissait pas moins prendre quelque intérêt à la fête, et souvent elle échangeait à voix basse de rapides propos avec l'un ou l'autre des énergumènes. À certains moments, Josua vint près d'Hélène et lui recommanda d'observer Tom Nothingworth, le type le plus notable de l'espèce en représentation. Ce personnage dépassait d'une hauteur de tête au moins le reste de la réunion. Maigre et nerveux comme un fouet, noué et rude comme un arbre, il avait le nez impudemment proéminent et une chevelure broussaillant tout le front. Ses paupières clignotaient sur de petits yeux gris très vifs et sa bouche, alternativement, se crispait ou s'élargissait jusqu'aux oreilles. Son organe aboyant couvrait le tumulte universel et Tom émettait à propos de chaque candidature des appréciations d'un cynisme à outrance, aboutissant tout de suite au culte d'un succès à la religion du dollar. Se fâcher, toutefois, était impossible, tant l'orateur, par ses œillades épileptiques et par l'agitation ricanante de ses lèvres, parvenait à donner le change sur la sincérité de ses convictions. Plus on vociférait, plus Tom Nothingworth braillait. Le salon de Josua ressemblait à une ménagerie qui prend feu. On entendait des cris de bêtes furieuses et on voyait s'envoler par la fenêtre l'énorme nuée fuligineuse exhalée par les fumeurs. Mais il n'est si charmant plaisir qu'il n'arrive à sa fin. Le bruit et la fumée prirent vers 11 heures leurs chapeaux et leurs cannes, descendirent l'escalier, se répandirent dans la rue et se dispersèrent peu après. Quand le silence et l'air respirable eurent repris possession du logis de Josua, les deux amis s'embrassèrent et se séparèrent après avoir follement constaté que le désir de rompre l'association ne leur serait jamais inspiré par aucun des hommes entrevus ce soir-là, fût-ce le tonitruant Tom Nothingworth. Le lendemain, c'était dimanche, jour de flânerie pour Josua, qui donnait congé à ses malades et passait la matinée à ranger ses livres et à lire, par-ci par-là, quelques pages dont elle résumait la substance en un cahier de notes. Après le déjeuner, Miss Hélène, qui s'apprêtait à sortir, eut la surprise agréable de recevoir, pour la première fois dans sa chambre, la visite de la doctoresse. Josua tenait plusieurs volumes sous les bras. Elle s'installa et fit à haute voix diverses lectures piquantes et instructives. C'était, comme on l'imagine sans peine, des réquisitoires et diatribes contre le socialisme du jour ou des arguments à l'honneur de ceux qui se prennent conseil que de leur tempérament ou de leur originalité. Elle accompagna ces extraits de nombreux commentaires, puis parla de choses moins graves. Elle assista son ami dans quelques détails de toilette, et lui parut plus expansive, plus bienveillante, plus affectueuse encore qu'à l'ordinaire. Il semblait que des sentiments supérieurs à l'amitié, que des tendresses de cœur sœur aînée ou de mère dussent s'épancher de ce cœur de femme gouverné par un esprit de philosophe et de savant. « Je vais risquer une question indiscrète, » dit Miss Hélène, émue de ce débordement de sensibilité. N'avez-vous jamais écouté les vœux de quelques soupirants? La doctoresse éprouva un peu d'hésitation à raconter qu'elle aussi avait, comme la majorité féminine, presque touché le fond du gouffre. J'ai été jeune encore, dit-elle. Un gentleman m'avait plu par ses semblants d'indépendance d'esprit, de hardiesse d'idées. Je le crus capable d'être un second, moi, pour les choses de la vie et les choses de la science. On nous maria, mais dès le lendemain, je pus mesurer en lui l'homme éternel. Oh, ce n'était qu'un despote grossier et un rival vaniteux. Impossible d'ailleurs de s'habituer à sa laideur extravagante lorsqu'il imprimait ce qu'il intitulait « son amour ». Heureusement, j'étais riche et il me fut facile d'obtenir que nous vivrions désormais séparés, de manière à ne plus nous voir, par intervalle, que comme des amis. L'amertume de ces souvenirs pesait sans doute à Mrs. Broghill, car elle vit un empressement remarquable à changer de thème. J'ai à vous annoncer, mais pour tout à l'heure, dit-elle, une visite d'une haute importance pour vous. Il s'agit d'une affaire que j'ai entamée hier soir avec quelques-uns de nos amis pendant la querelle politique. Je savais depuis plusieurs semaines que la compagnie du gaz, théâtre de mes études du soir, veut s'agrandir et compte acquérir un immense terrain en vente à la proximité. Eh bien, j'ai pris les devants et j'ai acheté ce terrain pour votre compte. Il m'a suffi pour cela de déclarer le montant de la somme dont votre loterie vous a gratifié. Miss Hélène fut prise d'une stupéfaction profonde. « Mais que diable pourrais-je faire de cette propriété ? » s'écria-t-elle. « Mais la revendre à la compagnie du gaz, dit Joshua. Mais comme vous manqueriez de l'astuce nécessaire à pareille transaction, j'en ai chargé Tom Nothingworth, l'intermédiaire le plus madré de San Francisco. Et il viendra, j'en suis presque certaine, vous apprendre que le marché est conclu et que votre fortune est triplée, sinon quadruplée. » Tom Nothingworth se présenta en effet chez Miss Hélène Kemp dans le courant de l'après-midi, pendant que la doctoresse était allée remettre ses livres en place. Ainsi qu'on l'avait prévu, Tom s'était supérieurement acquitté de sa mission. Les dollars de Miss Kemp se trouvaient multipliés par 4 et l'eussent été par 5 sans la commission que Tom seul jugea de son propre mouvement. Quelque candeur commerciale que lui eût supposé Joshua, Miss Hélène était assez américaine pour entreprendre de contester à Tom un courtage aussi démesuré. Mais Tom argumentait avec tant de maestria, il surabondait d'une si divertissante puissance de tripoteur, il sut, ouvrant une parenthèse, traiter si cavalièrement les lubies des femmes et surtout des manies sancto-farouches de Joshua, il était si subjugant, si pressant, si virilement dominateur, qu'il ne restait plus qu'à consentir à tout et à tomber en admiration. Est-il nécessaire de narrer l'épilogue de cette histoire, et ne l'avez-vous pas deviné déjà? Mrs. Broghill, nous le répétons à l'honneur de son sexe, n'avait jamais questionné Miss Hélène Kemp sur le but de ses promenades diurnes et nocturnes, de plus en plus fréquentes et prolongées. Miss Hélène se montrait toujours aussi amicale et d'aussi joyeuse humeur que le jour de son arrivée. Joshua n'en demandait pas davantage, et elle était heureuse à sa manière, lorsqu'elle reçut la lettre suivante, que Mistress Flyburn, pressentant infailliblement l'arrivée du facteur, avait attendu au moins pendant 2 minutes sur le pas de la porte. « Nous sommes partis, ma chère. Nothingworth et moi. Je vous laisse 10 000 $ que vous gérerez pour moi en cas de malheur. Un clergyman nous a mariés entre 2 trains. Nous filons sur New York. puis nous traversons l'Atlantique. Je meurs, il meurt, nous mourrons d'envie de voir Paris. Ah, comme il y avait beaucoup de vrai, ma chère, dans tout ce que vous m'avez dit de l'amour. Nous éprouvons déjà le besoin de nous fuir ensemble en Europe. Adieu ou au revoir. J'attends l'être de vous à New York, poste restante. Et Mrs. Joshua répondit par retour du courrier. Oui, au revoir, ma chère. Hâte-toi de plaider le divorce. Hâte-toi de dégager ta responsabilité et reviens vite dans mes bras. Tom Nothingworth. Eh, mon mari !»